1938, tu nous disais que tu avais 22 ans. 22 ans, c'est l'âge du service militaire, Léo.
Oui, mais moi j'étais étudiant, donc j'étais sursitaire. Encore pour un an, en 39, puis j'ai été après interviewé par les militaires.
Où ? Tu es allé où ?
Hein ?
Tu es allé où ? Sur la guerre ?
On m'avait mis dans l'artillerie. J'avais un copain, qui est toujours mon ami d'ailleurs, et qui était dans l'infanterie. Alors j'ai dit, moi je veux rester avec toi, je ne veux pas aller à l'artillerie. C'est la connerie, quoi. Alors on est allé à Nice, voir le commandant ou le colonel qui s'occupait de...
Du recrutement et de répartir les recrues.
Alors écoutez bien, je suis rentré dans le bureau. Messieurs, alors, j'ai expliqué à ce monsieur, à ce colonel, je lui disais, mon camarade est dans l'infanterie, moi je suis dans l'artillerie, ça m'ennuie, je voudrais être avec lui. Le type, il s'est levé, il nous a salués. Monsieur, je vous salue. Et alors, il m'a mis dans l'infanterie, alors je me suis dit, mais pourquoi il me salue comme ça? Ça voulait dire que l'infanterie, c'était terrible, que j'avais beaucoup de courage, quoi.
Bon, ben, en fait, et donc, tu t'es trouvé où, là, à Montpellier, non?
Non, j'étais à Nice, alors j'étais à Montpellier. Après, je suis resté, j'étais à Sète, un peu, et puis après, j'ai fini à Saint-Mexan. Et je suis sorti, pour 2 mois, d'ailleurs, la guerre a été finie, parce que les Français sont tirés des pattes. Je veux dire, les commandants, les officiers qui sont partis dans le sud, quoi. Alors, je suis parti dans le sud aussi, quoi. Et j'étais tirailleur, j'étais le, non pas l'adjudant, mais entre l'adjudant et le lieutenant, je me souviens.
Aspirant.
Pas. J'étais aspirant de tirailleur algérien.
Tu connais les choses sur l'armée, toi. Mais il y a un bruit qui court selon lequel tu aurais rencontré Charles Trenet à Montpellier, à l'époque.
Ah oui, attends, c'est en 41, je crois, ça. Oui, ça m'avait frappé, ça. J'avais été à Montpellier, et j'avais été voir... Le spectacle de Charles Trenet, que moi, j'aimais beaucoup, c'était un petit peu extraordinaire. Et je savais que son pianiste, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un nom avec deux prénoms, quoi, qui était aussi impresario. Alors j'étais le voir, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me recevoir? Je voudrais vous faire écouter d'autres chansons, je chante des chansons, ça, en m'accompagnant au piano. Alors il me dit, venez à la fin du spectacle. J'ai rien demandé à traîner, moi. Je ne le connaissais pas, puis j'aurais jamais osé, quoi. Alors, je suis arrivé, et quand je me suis mis au piano, j'ai vu traîner, il était dans le fond de la scène. Il m'a vu, il est venu vers moi, il s'est accoudé au piano, et il m'a écouté. Alors, moi, j'ai chanté, j'étais un peu ému, parce que c'était un type terrible.
T'as chanté quoi?
Et moi, je chantais.
Quelle chanson?
Je ne me rappelle plus. Les 3-4 premières chansons que je veux. Je peux pas te dire, c'était des chansons que tu connais pas. C'était... Alors, j'ai fini, et le traîné me dit, c'est très bien, mais je dois vous dire que vous ne chanterez jamais vous-même vos chansons. Alors, vous avez compris pourquoi.
Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des femmes.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes.
L'affiche qui semblait une tache de sang.
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Ils cherchaient un effet de peur sur les passants.
Nul ne semblait vous voir français de préférence.
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant.
Des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort la France. un été différent. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en érivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
C'est fantastique ça, parce que les techniciens, le réalisateur qui ont fait ce montage, ça m'a surpris, ça m'a fait très plaisir, et j'entends ça, chanter comme ça dans les rues à ce moment-là. Ça aurait été fantastique ça. Hein? Et il y a une chose, ça me remonte un peu quoi. Je peux pas aimer les Allemands, c'est pas possible. Voilà.
Oradour n'a plus de pierre, Oradour n'a plus d'église, Oradour n'a plus d'enfants. Plus de fumée, plus de rire, plus de toit, plus de grenier, plus de meule, plus d'amour, plus de vin, plus de chansons. Oradour, j'ai peur d'entendre. Oradour, je n'ose pas approcher de tes blessures, de ton sang, de tes ruines. Je ne peux pas voir ni entendre ton nom. Oradour, je crie et hurle chaque fois qu'un cœur éclate sous les coups des assassins. Une tête épouvantée, deux yeux larges, deux yeux rouges, deux yeux graves, deux yeux grands comme la nuit. La folie.
si c'est pour de moi revoir Paris et me retrouver chez moi seul sous la pluie parmi la foule.
Mesdames et messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater.
Je crois que le calme est à peu près rétabli, car était massé des tanks et des braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat. Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Ce lieu sacré, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France, qui a vu tant de télium de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
Prière pour l'équipage partant bombarder Hiroshima. Prions pour que la guerre se termine, pour que une fois encore on connaisse la paix sur Terre, pour que les hommes qui volent cette nuit aient protection de Dieu et qu'ils nous reviennent sains et saufs. Nous allons de l'avant, ayant confiance en Dieu. Il nous protège maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris.
Tous et toutes, ensemble, nous allons chanter l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Cette époque, qu'est-ce que tu vis, toi? Comment ressens-tu les choses? Tu perçois tout ce qui se passe? On est informé à ce temps-là?
On n'était pas tellement informé, quoi. Mais je veux dire qu'on savait ça, quoi. On a su ça après. Moi, je regrette que Truman n'ait pas pris le téléphone une heure avant le bombardement d'Hiroshima et dise à l'empereur, Hiroshito d'ailleurs, c'est toujours le même, dites aux gens de Hiroshima de partir, on va vous bombarder, quoi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Voilà.
Tu n'en reviendras pas, toi. Qui courait les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux.
Thank you. On part, Dieu sait où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
En 45-46, qu'est-ce que tu fais, toi, très concrètement? Tu es à Paris?
Non, je ne suis pas à Paris encore. Je suis à Paris à fin 46.
Fin 46.
Oui. Je chantais au Bœuf sur le Toit.
En 45, alors, tu es où?
En 45, oui. J'étais à Monaco.
Et qu'est-ce que tu fais?
Moi, j'étais un peu... Je jouais un peu de piano. J'accompagnais des fois, je ne suis pas un pianiste accompagnateur, mais des artistes. Et puis, je faisais le speaker. Je parlais que j'étais un mauvais speaker.
Et tu as des souvenirs de gens que tu as connus à cette époque?
J'ai connu Léo Ferré à Monte-Carlo, juste à la Libération, aux alentours de la Libération. Et je l'ai connu par l'intermédiaire d'une jeune fille qui était à la fois sportive, belle et poète, qui adorait André Gide, et qui s'appelait Claire Bourgenot. Et cette Claire Bourgenot faisait partie de mes émissions pour les jeunes, qui avaient des titres significatifs, « Tiens bon la rampe » ou « Place aux jeunes » avec un accent circonflexe, surlu. Et elle était la fille du directeur... C'est très curieux d'ailleurs, de l'usine à gaz de Beausoleil. Et un jour, après une émission, après m'avoir lu quelques vers de Gide qu'elle appréciait, elle me dit « Oh, je connais un personnage, il faut que je vous fasse connaître. Fantastique !» Je lui dis « Ah oui, qu'est-ce qu'il fait ?» Elle me dit « Il chante. »« Ah, il chante !» Je dis « Oui, pour le moment, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça, mais enfin, il chante. » Et il se fait appeler Léo de Hurletout. « Ah, je dis, c'est un beau programme, ça. » Et son vrai nom, il s'appelle Léo Ferré. Oui. Et il hurle tout. Ah, il hurle tout, il n'y a pas de question. Je voudrais vous le présenter parce que vraiment, je crois qu'il peut vous intéresser. Alors, évidemment, elle avait une telle foi en Ferré, elle ressentait qu'elle était une véritable fan avant la lettre. Alors, évidemment, je dis oui, moi. Hein. Et elle m'amène Léo, qui arrive avec un curieusement accoutré. Il avait un capuchon d'écolier bleu, ou comme on en les facteurs aussi, vous savez, avec un petit capuchon derrière, une cape. Et c'était elle qui lui avait prêté, c'était la cape avec laquelle elle allait à l'école, la môme. Alors il arrive, et puis on discute le coup, tout de suite il me plaît, et il me chante le scaphandrier, la chambre, et deux ou trois trucs du même style. L'esprit de famille, je me dis, mais nom de Dieu, mais c'est pas du talent qu'il a ce mec, c'est du génie. Alors, on sympathise formidablement, j'avais des émissions à Radio Monte-Carlo, on les fait ensemble, et on fait deux émissions en particulier, Carrefour des chansons perdues, oui. Et puis l'autre, c'était des goûts et des couleurs. Bon, alors tout ça a marché très bien, jusqu'au jour où Claude Dauphin et Jean Noin m'ont demandé de revenir à Paris pour jouer le bal des pompiers, à la place de Claude qui avait des contrats en Belgique. Quelque temps après, j'ai ouvert à Saint-Germain-des-Prés mon premier cabaret, le Côte Libette, et je me suis dit, il faut faire venir Ferré, il n'y a pas de question. D'autant plus que lui-même avait eu l'idée de monter à Paris parce qu'il sentait bien qu'à Monte-Carlo, c'était tout de même très limité. Alors j'ai donc fait venir Léo, il y avait Louis Lyons, il y avait Catherine Sauvage qui est venue plus tard, qui est devenue vraiment une des meilleures interprètes de Léo, et que j'embrasse au passage. Il y avait enfin Jacques Douai, un tas de gens, et Léo, qui chantait ses chansons, qui a fait un triomphe tout de suite, sauf quand il engueulait le public, bien entendu, ce qui me permettait de me battre, parce que lui, il était à son piano. C'était moi qui étais obligé de virer les gens, parce qu'il y avait quelquefois des malentendus. Et ça marchait formidablement bien. Quand je suis allé au Miller Larsouille, évidemment, il m'a suivi. Et puis là, nous avons eu quelques discussions, parce que Léo n'était peut-être pas payé à sa juste valeur. Comme ce n'était pas mon rayon, je me suis allié avec lui. Enfin, j'étais d'accord avec lui, j'ai pris son parti. Et puis finalement, nous sommes partis du Miller Larsouille. Et on est allé en transfuge au Quartier Latin. Où on a ouvert une boîte qui s'appelait Le Trou. On voulait appeler ça au début la casserole, pour que les gens qui passaient là disent « je passe à la casserole ». Puis on a trouvé que c'était de mauvais goût. On a appelé ça Le Trou. Le propriétaire était un certain Chadli. Il avait le théâtre du Quartier Latin, à côté des Noctambules. Et indépendamment du cabaret, on a créé une petite pièce, enfin une pièce, un divertissement. Et c'est Ferré qui avait trouvé le titre, parce qu'il a le don pour ce genre de truc. Il avait appelé ça « Les mutins respectueux ». Vous voyez tout de suite où ça peut nous mener. On était à côté de Boris Vian, qui avait l'écarissage pour tous. C'était vraiment une rue subversive. La rue Champollion, il n'y a pas de question. Voilà, alors on était là. Et là, j'ai quelques anecdotes assez touchantes. Quand on est parti de Saint-Germain-des-Prés pour aller au Quartier Latin, on n'avait pas un pélo. Alors on a pris une voiture à bras, on a mis nos bouquins, nos quelques grègues là-dedans, et puis on s'en est allé s'installer à un hôtel. C'était un hôtel, on avait pris une chambre pour deux, avec deux lits bien sûr, mais la seule où il y avait un piano. Et un soir, d'abord quand on est arrivé, oui, commençons par le commencement. Quand on est arrivé, après avoir... Vous savez, c'est dur, hein, tirer une voiture à bras dans l'avenue Médicis, là, le boulevard... C'est coton, hein. Ça monte, hein. Lui, il poussait, moi, je tirais, on en a mis un bon coup. On arrive là, puis on déballe nos fringues dans la pièce. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, j'ai faim, merde, j'ai faim. On va chercher quelque chose, hein. On va briefer. Il dit, d'accord, on va au coin de la rue Monsieur le Prince, et puis on achète quoi bouffer, quoi. Et je me souviens qu'il avait pris du céleri rave, et qu'il le portait, vous savez, dans un petit comme si on aurait dit une petite pyramide qu'il tenait par le haut très précautionneusement. Alors on s'amène à la maison, il ouvre la porte et puis voit ce déballage dans la pièce. Il se retourne vers moi, la mine défaite, et il me dit, Francis, c'est la misère. Et je dis, eh oui. Alors il rejette un coup d'œil, et puis il voit les partitions de musique, les bouquins. Là, il reprend sa superbe. Il me dit, c'est la misère, mais on peut faire voir. Et là-dessus, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais je ne sais rien, moi. On va courir les filles, qu'est-ce qu'on fait, hein? On reste là à pleurnicher. Si on faisait une chanson. Et on a écrit La vie d'artiste.
Je t'ai rencontré par hasard ici. Ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même.
Bon, alors là-dessus, on était quand même un peu déprimés. Et je dis à Léo, dis donc, je t'offre une partie de flipper. Il adorait ça. Mais d'où ça? Tu ferais ça? T'as un peu d'argent? Et je lui dis, enfin, j'en ai suffisamment pour te payer une partie de flipper. Il dit, mais où? Ben, je dis, au coin de la rue Cujas, là, il y a le grand bistrot, il y en a je sais pas combien, il y en a une quinzaine. Oh, mais d'accord, il va, hein. Et on s'en va, tous les deux. Et en route, c'était une époque, je ne sais pas quelle époque c'était exactement, mais il y avait des, vous savez, des petits marchands, là, des petits camelots le long du boulevard Saint-Michel qui vendent dans la Sûre. Et il en a vis un qui vendait des pipes. Oh, mais tu permets? Il va vers ce bonhomme et il achète une pipe que j'ai encore, qui est recourbée comme ça, une pipe en bruyère, bien entendu. Alors, il y a deux viroles en cuivre et entre les viroles, un petit morceau d'os, etc. De corde, je ne sais pas quoi. Alors, il me rapporte ça et voilà ce qu'il me dit. Vous allez voir, c'est fantastique, je trouve. Il me dit, tu vois cette pipe, hein? Quand tu seras tout seul, tu te la bourres, tu te l'allumes, tu te la tiens comme ça avec la main, et c'est le cœur de ton ami tout chaud que tu tiendras dans la main. Comprenez, hein? Ça vous coupe le kiki. On continue à marcher un petit peu. Il me regarde comme un enfant. Il me dit, t'as remarqué, Francis? Je lui dis, quoi? On est amis du même pas. Alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a eu quelque chose comme ça entre deux êtres, hein, tout le reste, ça n'existe pas. On oublie tout le reste. Bien sûr, comprenez qu'avec le tempérament qu'on avait tous les deux, il y a eu des moments explosifs. Mais ça n'existe pas. Il y a ça qui reste. Il y a la pipe, il y a le pas, et puis bien d'autres choses. Quelque temps après, voyez-vous, ce que je trouve de formidable chez Léo, à mon sens, hein, actuellement, c'est le plus grand vivant. On pouvait lui opposer peut-être à un moment donné Prévert, on aurait pu lui opposer Mireille Jean. Il y a Traîné aussi, vous me direz, Brassens, qui a disparu. Mais actuellement, c'est celui qui a, à mon sens, la voix la plus expressive, la plus personnelle, la plus moderne. Et finalement, et à son âge, et actuellement, il est encore branché. La preuve, d'ailleurs, c'est que les jeunes aiment Ferret et en redemandent. Et puis il écrit des poèmes merveilleux, enfin. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, remarquez, on va me dire que je ne suis pas objectif, que l'affection prime tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis particulièrement difficile avec les gens pour lesquels j'ai à la fois de l'affection, de l'estime et de l'admiration, ce qui est mon cas pour Léo. Ça, il n'y a pas de question. Et voyez-vous, je crois que Léo, c'est du génie qu'il a. Hein, c'est plus que du talent. Et une petite anecdote à ce sujet. Il a écrit une chanson merveilleuse qui s'appelle « L'inconnu de Londres ». Et dans un couplet, un jour, en lisant le texte, j'ai trouvé deux vers, et l'inconnu parla, comme on parle au navire, dans les ports orgueilleux, que les départs déchirent. Avec cette répétition de la lettre P, qui implique le départ. Enfin, c'est presque de l'harmonie imitative. Alors je me le relis, je regarde mon Léo, qui était là, souriant, et un peu lointain. Je dis, dis donc Léo, mais c'est génial ton truc là, on dirait. C'est du Baudelaire. Et l'inconnu parla comme on parle au navire, dans les ports orgueilleux que les départs déchirent. Il me regarde et me fait, merde, j'ai pas fait exprès. C'est du génie. Alors voilà. Voilà Léo. Et alors depuis, ben, ma foi, depuis, la vie nous a séparés par les lieux. Mais vous savez, comme le disait Apollinaire, hein, lorsque de nobles cœurs, c'est vrai en amitié comme en amour, lorsque de nobles cœurs se sont vraiment aimés, leur amour est plus fort que la mort elle-même. Cueillons les souvenirs que nous avons semés. Et l'absence, après tout, n'est rien lorsque l'on s'aime.
Salut, Francis. Je peux pas parler.
Écoute, alors si tu peux parler, on va réécouter la vie d'artiste qu'on a un peu écourtée, mais dans une autre version.
On s'est rencontrés par hasard ici ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profite-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir. Tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi. Un étranger, un maladroit lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche.
Versions.
Hein?
Combien y a-t-il d'années entre les deux versions?
Je sais pas. J'avais fait ça la première fois, c'était de. Non, aussi pour les disques Barclay. Hein. Et je sais pas pourquoi j'avais refait. Pour quelle raison j'ai fait un jour au piano, en direct, au studio Barclay, cette version-là. Mais il y a une raison, mais j'en souviens pas.
Tu compares quelquefois les interprétations que tu as pu faire de telle ou telle chanson à.
Oui, sûrement. Oui, c'était. Il y a des choses que je chantais il y a 30 ans que je chantais très mal, quoi. J'avais la voix d'un petit âne, quoi. En fait, je te ferai voir, hein, je te fais entendre, c'est facile, hein. J'avais la voix d'un petit âne, que c'est gentil, hein, tout bien. Je faisais in-an, et des fois ça venait mal, quoi. Non, c'est vrai, j'ai appris à chanter, je le disais tout à l'heure à mon copain, j'ai appris à chanter au long des années, quoi. C'est pour ça que je n'aime pas, des fois, il y a des musiciens, pas en France, mais en Italie, on s'appelle maestro, maître. J'ai dit, m'appelez pas comme ça, moi je suis pas un maître, je suis un élève. Et je suis tout le temps un élève, toujours. J'apprends toujours quelque chose, toujours. En faisant ce métier, en chantant, quoi.